Je suis en studio avec notre première invitée, la présidente directrice générale de Mères avec pouvoir, Valérie Larouche. Et ma première question, c'est justement, on aurait pu penser et s'enfarger puis dire mère de pouvoir ou mère au pouvoir ou autre, mais je pense qu'il y a une distinction fondamentale dans le nom mère avec pouvoir. Mm-hmm. Valérie, expliquez-nous.
Bien, bonjour, merci de l'invitation. Oui, bien, en fait, on est très orgueilleuse avec notre nom, puis on y tient, puis c'est pourquoi on le nomme, puis on est bien fiers. Pour nous, l'équité, l'égalité, le partage des pouvoirs est vraiment intéressant, est vraiment important, puis est au cœur aussi de notre mission. Donc, ça va arriver que les gens, ils vont faire des erreurs, puis dire mère au pouvoir. Mm. Puis bon, on peut être sensible, là, la notion est quand même importante, surtout dans le contexte là, actuel, là, le pouvoir, donc il est vraiment...
Il est malmené au niveau des femmes, c'est pas évident.
Donc, c'est vraiment les mères avec pouvoir, oui.
Et donc, de dire qu'on se retrouve dans des situations où on n'est pas impuissante.
Mm-hmm, tout à fait. Donc, on valorise vraiment l'autonomie, l'indépendance, la capacité à prendre des décisions, à faire des choix. Donc, le pouvoir est vraiment important là, pour les femmes, pour les mères en particulier.
Mm-hmm. On va parler, bien sûr, des solutions, des différentes activités que votre organisme met de l'avant, mais peut-être un petit peu nous brosser un portrait des défis que ces femmes-là vivent. On disait d'entrée de jeu là, qu'au niveau des chefs de famille monoparentales, bon, c'est une écrasante majorité de femmes. Donc, mm-hmm. qu'est-ce qu'elles vivent comme type de défi au quotidien?
Donc, avoir un enfant, c'est un chamboulement là, dans une vie d'adulte.
Oui.
Donc, quand c'est une mère qui est seule, donc ça a beaucoup d'impact dans sa vie. Nous, on accompagne beaucoup de jeunes mères aussi, donc qui sont dans la transition à la vie adulte. Donc, nous, on accompagne des mères de 17 à 45 ans environ. Okay. Donc, c'est toutes des mères qui ont des enfants de moins de 5 ans. Donc, on est dans la transition à la vie adulte, on apprend à se connaître, on veut s'émanciper et puis on veut prendre soin aussi de tout petit enfant qui nous est confié par la vie, finalement. Donc, qu'on veut qu'il s'épanouisse, qu'il se développe bien, on veut développer aussi une relation profonde avec ce petit être-là dont on prend soin. Donc, c'est un gros chamboulement dans leur vie, dans leur horaire, dans leur réseau social. C'est aller au travail, prendre soin de son logement, de sa vie sociale quand on a un enfant, c'est un défi. Donc, si on est seul, d'autant plus. Donc, nous, on accompagne les femmes à travers leur émancipation socio-professionnelle, la recherche d'un logement permanent suite à notre parcours. Donc, le développement aussi au niveau femme, au niveau mère, au niveau citoyenne, au niveau étudiante, travailleuse, parce qu'aller travailler, c'est pas juste se lever et y aller, c'est avoir un équilibre dans toutes les sphères de sa vie. Puis on confie notre enfant dans un milieu de garde, généralement, donc aussi apprendre à se détacher, à faire confiance aussi au nouveau milieu, puis à établir une communication qui est saine aussi avec eux. Donc, c'est toutes sortes de défis, mais surtout toutes sortes de réussites, puis de nouvelles choses à travers lesquelles on va accompagner les mamans.
Bien, vous avez nommé justement les quatre volets d'intervention. On prendra le temps de les creuser chacun d'entre eux.
Oui.
Mais vous disiez, Valérie, 17 à 45 ans, ça demeure un écart quand même assez considérable. Mm-hmm. Être enceinte à 17-18 ans, quand on sort nous-mêmes de l'enfance, ça effectivement doit être tout un chamboulement. Puis on peut penser que ce n'est pas nécessairement une décision... mûrement réfléchi. Donc, il y a ça aussi qui entre en jeu, j'imagine.
Bon, j'ai le goût de dire que c'est pas l'âge qui fait qu'une décision est réfléchie, là, mais ouais. Il y a autant de situations qu'il y a de personnes. Mm-hmm. Il y a pas d'âge pour être... il y a des âges idéaux où est-ce qu'on peut penser qu'on va être plus prête à être maman. Mm-hmm. Par contre, c'est pas tout le monde qui est prête au même moment. À tous les âges, il y a des femmes qui n'étaient pas prêtes ou pour qui c'était pas un souhait. Puis à tous les âges, c'était aussi la situation. Ce qui est souvent pas le cas, par contre, c'est le choix d'élever son enfant seul. Mm. C'est le choix de la monoparentalité qui va être plus l'enjeu, en fait. Là. Le deuil amoureux, par exemple. Le deuil de la famille aussi. Puis d'accueillir tous les changements peut-être qu'on n'avait pas prévus ou qu'on pensait qu'ils ne seraient pas aussi grands, notamment de notre vie sociale, qu'est-ce que ça demande de prendre soin d'un enfant aussi?
Parce que j'imagine que c'est tout un clivage. Si on prend surtout les jeunes mères, que, par exemple, tes amis sont aux études, travaillent et où sont à aller dans les parcs, à faire la fête et autres. Et là, tu te retrouves avec des conversations complètement différentes, des réalités complètement différentes.
La réalité est vraiment différente. Pour les mamans avec qui on travaille, en fait, c'est sûr que c'est démontré, même scientifiquement, qu'un haut taux de diplomation va être un facteur de réussite, un facteur de protection, pardon, chez les enfants. Donc, plus un parent est éduqué et a un revenu élevé, et ce n'est pas systématique, je tiens à le dire. Ça, c'est quand même démontré que c'est favorable au développement global de l'enfant. Donc, comme nous, notre projet, c'est d'accompagner les femmes en projet socio-professionnel. Donc, la majorité des femmes ont peu de diplomation et n'ont pas nécessairement un réseau social aussi qui est très serré et pour qui l'aspect du travail puis de l'épanouissement au niveau professionnel est important. C'est plus là où est-ce qu'il va avoir un défi en termes de, qu'est-ce que je veux faire de ma vie finalement, puis qu'est-ce que ça prend vraiment pour élever un enfant et s'élever soi-même, en fait.
Oui.
Donc, c'est vrai que nous, on a un programme pour les jeunes mères. Donc, les besoins, donc les femmes, les jeunes mères vont être en transition à la vie adulte. On a un programme vraiment pour les jeunes mères. Parce que c'est sûr que les sujets sont différents chez une vieille, je tiens à mettre des guillemets, une vieille mère de 30 ans.
On dit, c'est quoi, gériatrique, rendu c'est ça, une les grossesses gériatriques.
Donc,
non, mais c'est notre technicien me regarde en disant, t'exagères, mais je pense que c'est le terme.
C'est un terme qui existe, mais je pense que c'est plus à partir de 40 ans, 45 ans.
Bon.
Mais bon, c'est sûr que c'est des sujets différents, puis c'est évidemment une expérience de vie qui n'est pas la même, là, on ne va pas faire semblant. Pour les mères, on a différents programmes, mais aussi des femmes entre elles vont s'aider. Donc, une mère, justement, qui a plus d'expérience de vie ou qui a une expérience complètement différente, bien, va pouvoir venir en soutien à une plus jeune maman qui a vraiment une courbe d'apprentissage de la parentalité et de la vie adulte qui est beaucoup plus prononcée. Je vais dire ça comme ça. Par contre, c'est toutes les femmes qu'on accompagne, c'est toutes des mamans qui souhaitent vraiment mettre en place tout ce qu'il faut pour elles s'épanouir et mettre en place tout ce qu'il faut pour le développement de leur enfant. Donc, c'est fabuleux, peu importe leur âge, qu'elles prennent cette chance-là et puis elles mettent l'énergie dans cet aspect-là de leur vie.
Ça peut être aussi peut-être un deuxième enfant.
Oui.
Qu'on a alors qu'on est peut-être plus jeune, mais on a l'expérience d'avoir vécu ce que c'est être mère. Puis peu importe la scolarité qu'on peut avoir, c'est une expérience intimement féminine, à la limite, tu sais, basée sur notre humanité, sur notre animalité, qu'on sait pas. On a beau avoir peut-être plus de vocabulaire pour décrire les choses, mais la peur, elle peut être là. On peut être traversé par toutes sortes de... Donc, le fait d'avoir peut-être justement des mères qui sont déjà passées par là, même si elles sont peut-être jeunes, ben j'imagine que ça les aide à passer au travail.
Oui, puis d'être entouré de femmes qui vont à l'école ou vont au travail, qui ont un enfant du même âge aussi, ça permet de pouvoir partager d'avoir un tronc commun ou des défis similaires. Peu importe où est-ce qu'on est rendu ou à quel âge on a un enfant du même âge et on est en train d'étudier à temps plein, par exemple. Donc, on a plein de choses à partager. Puis c'est souvent ce qui ressort, de pouvoir partager une expérience, juste normaliser les choses, dédramatiser ou pouvoir vraiment avoir un partage qui est équitable puis qui est sans jugement aussi entre elles. Donc, les mamans, elles vont garder les enfants l'une de l'autre, s'aider en français, en mathématiques, pour l'épicerie. Donc, il y a vraiment un réseau d'entraide là, qui va se passer avec pas de jugement parce qu'on le sait, tout le monde sait très bien qu'est-ce qui est en train de se passer chez ta voisine à côté qui a un enfant du même âge que toi. Là.
Oui, et ce qu'on entend dans vos propos, c'est cette entraide-là là, qui est essentielle, mais aussi, si je comprends bien, mère avec pouvoir a aussi un volet d'hébergement qui fait qu'on peut se côtoyer au quotidien.
Oui.
Donc, comment on s'est installé? Est-ce que c'est comme un modèle de coopérative? Ou?
Donc, mère avec pouvoir a deux volets. Donc, il y a un volet en milieu ouvert. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va accompagner des femmes qui sont monoparentales, qui ont des enfants de moins de 5 ans, qui ont un projet de vie socio-professionnel et qui ont un logement qu'ils sont capables de payer, qui est sain, sécuritaire, puis qu'elles veulent garder. On a un programme donc qui inclut un logement. Donc, nous, ce n'est pas de l'hébergement, c'est vraiment un logement subventionné, donc à 25 % du revenu pendant une période pouvant aller de 3 à 5 ans. Pour les mères qui sont monoparentales, donc à plus de 50 % du temps, elles ont la garde de leur enfant, à faible revenu et qui ont un projet de vie socio-professionnel. Tout ça, nous, c'est comme un petit village, je vais dire. Donc, quand on arrive à Mère avec pouvoir, juste à droite, il y a les bureaux d'intervention, une salle de jeu commune, une cuisine commune. Et là, à notre gauche, on va avoir un CPE de quartier, donc 80 places, mais qui priorise les enfants de Mère avec pouvoir, qui est le CPE Carrefour. Et là, vous entrez dans la cour, c'est une grande cour intérieure avec des modules de jeu, des brouettes, des vélos, des trottinettes pour tous les enfants. Et on va retrouver là les 30 logements de 30 femmes qui habitent sur le site. Donc, il y a des femmes que ça fait un an qui sont là, puis d'autres, ça fait 5 ans qui vont quitter bientôt. Donc, on n'a pas de cohorte. Il y a presque à chaque mois des femmes qui quittent, des femmes qui arrivent. Et pour toutes ces femmes-là, en milieu ouvert ou dans le volet logement, on va offrir des services d'accompagnement. Donc, toutes les femmes ont un suivi mensuel avec une intervenante. Ça peut être à chaque semaine aussi. Donc, des activités de groupe, des ateliers, des activités familiales, des sorties familiales, du répit aussi. On offre des petits groupes, des petits moments de répit par les animatrices. Donc, tout ça est vraiment dans le but que les femmes puissent se maintenir aux études ou en emploi et qu'elles puissent s'épanouir dans leur rôle de maman aussi.
Et j'imagine qu'il y a toute une préparation à l'après aussi.
Oui.
Parce que vous voulez vous assurer qu'elle puisse faire la transition vers un autre type de modèle de logement de façon sereine et qu'elle ne développe pas une dépendance à vos services et aux programmes.
Il y a une intervenante qui disait que le jour du déménagement, c'est là qu'on commence à préparer le départ quand une maman arrive. Donc, pour nous, on travaille avec l'approche du pouvoir d'agir. Donc, c'est les femmes qui s'engagent envers elles-mêmes à réaliser un projet, puis qu'elles se donnent des objectifs, les moyens de réaliser. Nous, on est un tremplin, on est des facilitatrices. Il y a plein de services qu'on n'offre pas sur le site, puisque c'est un programme qui est temporaire. Pour nous, c'est vraiment important que les femmes aient des liens dans la communauté. Par exemple, on n'a pas de clinique d'impôt, on n'a pas d'infirmière, on n'a pas de service autre que... On n'a pas de psychologue, par exemple...
Vous avez des intervenantes.
On a des intervenantes, on a une sexologue, une éducatrice spécialisée. Donc, on focus vraiment sur leurs besoins pour se stabiliser et aller chercher des acquis qui vont leur permettre vraiment d'être autonomes et indépendantes. Et à travers tout le parcours, on va les accompagner à différents endroits, que ce soit en cours, chez le médecin. On a des partenariats avec des centres communautaires, des gyms et tout ça. Donc, où est-ce qu'elles vont expérimenter avec de l'accompagnement, le lien dans la communauté, sortir avec son enfant, cuisiner avec son enfant, aller à une cuisine collective. Donc, on offre un atelier de cuisine collective par mois, par exemple. On pourrait en offrir 4-5, il y aurait de la demande pour ça, mais ce n'est pas notre mission. Notre mission, c'est de les accompagner à utiliser les ressources. Ce qui fait que quand ils quittent, c'est sûr que c'est difficile. Ils ont 29 voisines, les enfants ont 29 enfants du même âge, amis du même âge, il y a une équipe d'intervention. Ceci dit, généralement, l'objectif, c'est qu'elles ont été chercher tout ce qu'ils avaient besoin puis qu'ils disent « Hey, merci, maintenant, je suis prête, je continue mon parcours. » Puis bon, ils vont continuer à venir faire un tour, à venir nous voir, à nous appeler. On demeure là pour elles. Ceci dit, elles sont équipées quand elles ont terminé leur parcours.
Puis elles savent tellement ce qu'elles ont reçu qu'elles j'imagine, elles sont contentes de sentir qu'elles peuvent
laisser
la place à quelqu'un qui en a besoin. Valérie Larouche, on prend une petite pause et on revient tout de suite après aux Héros anonymes. De retour aux Héros anonymes, je suis en studio avec Valérie Larouche, présidente directrice générale de Mère avec pouvoir. Valérie, je suis comme curieuse un petit peu de voir comment ce modèle-là spécifique, parce que j'ai comme l'impression que c'est quand même assez innovateur, là, comment vous avez structuré votre offre de service. C'est quoi l'historique de Mère avec pouvoir? Comment c'est né?
Donc, nous, on a ouvert en 2001. On est situé dans le centre-sud à Montréal. C'est un secteur où est-ce qu'au Canada, il y avait la plus grande concentration de mères monoparentales. avec une situation de vulnérabilité au niveau du logement, avec une faible diplomation et un faible revenu.
Mm.
Donc, plusieurs intervenants se sont réunis puis voir, bon, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour agir sur cette donnée-là? Et donc, une organisation qui faisait du développement en logement social a contacté un directeur de CPE, deux organisations du même quartier, puis on dit, on travaille-tu là-dessus ensemble? Ils se sont alliés d'une personne qui travaillait en centre jeunesse, un organisme de femmes, et tout le monde s'est mobilisé ensemble pour mettre en place une ressource qui permettrait de briser le cercle de pauvreté chez l'enfant et qui permettrait aux femmes de pouvoir s'émanciper. Donc, pour y arriver, ben, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est assurer un logement accessible aux femmes et assurer une place en milieu de garde pour les enfants. Donc, tout ça s'est passé donc, dans les années 90, qui a permis en 2001 d'ouvrir 30 unités de logement subventionnées pour des mamans qui retournaient aux études sur le marché du travail, qui avaient des jeunes enfants. À travers les années, on a vraiment mis l'accent sur l'accompagnement. Pour nous, ce qui fait la différence d'être dans un HLM, par exemple, ou habiter seul dans un logement, c'est d'être accompagné par quelqu'un qui va toujours te tirer vers le haut, t'aider à te débroussailler les outils qui vont te parler, toi, puis qui vont te permettre de prendre des décisions et de les assumer et d'aller encore plus loin. Donc, on a toujours été très fervent de favoriser la disponibilité d'intervenantes, un nombre d'intervenantes aussi important. Donc, s'assurer que les femmes peuvent toujours rencontrer quelqu'un. C'est pas du logement aussi supervisé, ce qui fait qu'on n'est pas là la nuit. La fin de semaine, il y a des activités, mais on n'est pas toujours là. Donc, les femmes doivent être en mesure de prendre soin de leur enfant, de s'occuper de leur logement et d'aller à l'école, mais elles veulent du soutien. Et ça a fait que plus de 85 % des femmes quittent le programme avec un diplôme ou un emploi, ce qui est vraiment significatif. Et ensuite, on a eu beaucoup de demandes un peu partout au Québec pour dire, mais nous, votre modèle, il nous parle. Est-ce que vous voulez nous donner un coup de main? Donc, on a accompagné des groupes à Québec, à Saint-Adèle, à Magog, dans l'ouverture de leur organisation.
C'est le même nom ou c'est...
Non. On a chacun nos couleurs, mais on met tout en avant-plan l'aspect socio-professionnel. Donc, par exemple, à Québec, on va parler de Mère et Monde, qui sont propriétaires. Donc, on a chacun, nous, on n'est pas propriétaires du site, on a chacun nos couleurs, qui utilisent l'approche participative, avec une autre approche différente. Donc, on a vraiment chacun des couleurs, mais on vise la même chose, l'autonomie, l'indépendance des femmes, puis le développement des enfants.
Est-ce que vous avez constaté, parce qu'il y a quand même beaucoup de programmes d'insertion qui existent ou de retour à l'école, insertion socio-professionnelle, qu'est-ce qui fait que ça ne collait pas à cette clientèle-là au départ, ce type de programme déjà existant?
Très peu de programmes aujourd'hui et même à l'époque incluaient l'aspect du logement subventionné et les places pour le CPE. Nous, le CPE est sur le site. Là. La maman, elle quitte son appartement avec son tout-petit. Elle marche 4 minutes, elle dépose son enfant. Elle marche 10 minutes, elle est dans le métro pour se rendre à l'école. C'est sûr que pour, par exemple, les programmes d'Emploi Québec ou pour l'aide sociale, quand la participante, parce qu'on travaille juste avec des femmes, a un logement, a une place pour son enfant, bien, il y a ça favorise vraiment la réussite. Donc, c'est pour eux, c'est vraiment l'idéal quand il y a ce processus-là. On a développé des partenariats même à travers le temps parce qu'ils disaient, mais on le sait que quand il y a une femme qui participe à votre programme, elle va réussir. Mais si on le sait qu'une maman est dans un logement qui n'est pas adéquat, qui n'a pas de CPE sécuritaire pour l'enfant ou qui n'est pas ouvert à tous les jours de la semaine, qui n'a pas une place spécifiquement pour son enfant, bien, elle va manquer, elle risque plus d'abandonner ou elle va devoir retourner travailler parce que son logement coûte trop cher ou parce qu'il n'est pas adéquat. Donc là, on assure la maman, c'est sûr qu'elle va pouvoir se maintenir en emploi. Se maintenir aux études. Puis bon, la vie, c'est la vie. Là. Des fois, les mères vont se réorienter. Finalement, ils n'aiment pas ça, ça ne marche pas. L'enfant est malade, ils ne peuvent pas y aller. Je veux dire, on vit. Mais là, ça met vraiment en place ce qu'il faut pour que la mère puisse vraiment faire son projet. Puis ça, les partenaires, donc, comme je disais, Emploi Québec, l'aide sociale, prêts et bourses, les cégeps, le DEP, sont conscients là, de cet aspect-là.
Et on parlait tout à l'heure de milieux ouverts aussi. Donc, c'est des mamans qui ont leur logement, mais qui bénéficient de plusieurs activités que vous organisez. Quel type d'activités?
Donc, nous, deux soirs par semaine, par exemple, les mamans qui sont... toutes nos activités sont aux mamans qui participent au programme. Donc, quelqu'un ne peut pas appeler pour participer à notre atelier sur le budget si elle n'a pas... Un suivi avec nous. Elle peut s'inscrire sur la liste d'attente, puis on fait rapidement le suivi. Bon, on a des ateliers sur le développement de l'enfant, le budget, faire son CV, sur la confiance en soi. On a une sexologue qui donne des ateliers sur le développement sexuel chez le tout-petit, comment développer aussi tout ce qu'il faut pour que l'enfant soit sécure au niveau de ses relations avec les autres. On a un groupe, on nomme les ateliers lanternes de la Fondation Marie-Vincent.
Ateliers lanternes, qu'est-ce que c'est?
Donc, c'est tout ce qui est en lien avec justement le consentement, être capable de mettre ses limites dans la vie en général et particulièrement dans les relations intimes. Aussi comment manifester aussi tout ce qu'on a réussi envers son employeur pour dire, je voudrais un autre poste. Je mérite un ajustement de salaire, une augmentation de salaire. Donc, tout ce qui est en lien avec une vie d'adulte, de maman, de femme, c'est des ateliers là, qu'on va donner. On a aussi, comme je disais, plutôt cuisine collective. C'est vraiment, on offre une variété là, de choses. Sur les programmes d'Emploi Québec, comment ça marche? C'est quoi? Qu'est-ce que ça prend pour pouvoir s'inscrire? Donc, c'est toutes des choses qu'on va partager.
Vous parliez tout à l'heure de quatre volets, là, femme, mère, citoyenne, étudiante, travailleur. On est en période d'élection favorable. C'est un drôle de lapsus, je ne sais pas du tout comment l'interpréter. On va passer là-dessus. Fédérale. Et est-ce que ça vous les emmener à être conscientisés? Parce que veut pas, les programmes sociaux vont avoir une grande importance pour elles.
Oui. Donc, au niveau citoyen, par exemple, on a un comité des résidentes, on a un conseil d'administration où est-ce que les femmes vont participer. Quand il y a des contextes d'élection comme ça, on va inciter les femmes à participer au débat, c'est vraiment des choses sur lesquelles on va les encourager à s'intéresser et à exercer leurs droits. L'aspect citoyen va être aussi d'aller aux rencontres de parents à l'école. Selon où chaque femme est vraiment rendue à différents lieux dans leur vie. Donc, il y en a pour qui les élections fédérales, là, c'est vraiment loin. Mais nous, on va semer des petites graines pour dire, ça a l'air loin, mais voici où est-ce que ça te touche dans ta vie, les décisions du gouvernement fédéral. Puis des fois, elles sont surprises de dire, je pensais pas que ça pouvait me toucher à ce niveau-là. Parce que, au niveau, par exemple, on va prendre l'enjeu de l'itinérance dans Centre-Sud, c'est quand même omniprésent. Puis on pense toujours que c'est vraiment quelque chose qui relève de la ville, alors que c'est pas le cas. Donc, dire, ça remet un petit peu les choses en perspective, puis avoir, je dois vraiment m'intéresser à ce qui se passe, puis on tente de désensibiliser de différentes manières à ce qui se passe autour d'elle. Là.
Est-ce qu'il y a des femmes qui reviennent vous voir des années plus tard ou des enfants qui vous témoignent de leur parcours de vie?
Oui, il y a une maman, justement, qui avait fait son parcours avec nous, puis des années plus tard, elle cogne à la porte, puis elle dit, écoute, elle dit, je viens d'être mis à pied de mon travail. On est plusieurs, ils ont été mis à pied. Mon premier réflexe a été de venir ici. Puis elle dit, je pense que je vais me réorienter. Puis elle avait son conjoint, elle s'était même mariée à ce moment-là, mais son réflexe était quand même de venir nous voir. Elle s'est réorientée, puis éventuellement, donc j'en ai pas entendu parler, ma fille a plusieurs suivis médicaux, là, on était à Sainte-Justine, puis j'entends une voix qui me dit quelque chose, je me tourne, puis l'infirmière responsable du département, à ce moment-là, c'était elle, donc elle s'était vraiment réorientée. Puis, c'était vraiment beau de voir que au niveau socio-professionnel, son premier réflexe, c'est de venir nous voir, puis de voir, qu'il y avait eu une continuité. Pour nous, c'est vraiment le plus beau cadeau. Là.
C'est une récompense à tous les jours de voir ces projets-là. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour l'avenir?
D'autres projets comme ça et vraiment la place des femmes dans le milieu du travail, évidemment.
Merci beaucoup, Valérie Larouche. L'organisme s'appelle Mère avec pouvoir. Je vous invite à découvrir ce qu'elles font d'extraordinaire pour les femmes monoparentales qui vont aider à grandir des enfants avec des enfants épanouis.
Merci.
Merci, Valérie.